RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal de Sébastien Duhamel.
Et après l'élection, le temps des réactions au Gabon, où l'opposant Alain-Claude Béli-Binzé ne contestera pas la victoire annoncée de Brice Clotaire-Oligui Nguema à la présidentielle. Il dénonce des pratiques dignes de l'ancien régime, mais il ne veut pas perdre son temps, dit-il, vous l'entendrez. Alors qu'en face, on savoure la victoire acquise loyalement, selon la plateforme des bâtisseurs qui réunit autour du président élu. Vous l'entendrez également. 2 ans d'horreur au Soudan, 2 ans aujourd'hui d'une guerre fratricide et meurtrière. Elle a provoqué le déplacement de près de 13 millions de personnes. Et pour tenter de répondre à cette crise, une conférence internationale est organisée aujourd'hui à Londres. L'Est de la RDC, où les armes s'expriment également, et où la MONUSCO, la mission de l'ONU, nie être impliquée dans de récentes attaques contre l'AFC M23. Et puis, un procès inédit qui s'annonce en Afrique du Sud. Un ancien policier sera bientôt jugé pour crime d'apartheid. La Cour constitutionnelle doit encore valider les résultats du ministère de l'Intérieur au Gabon. Mais d'ores et déjà, de nombreuses réactions après la victoire annoncée de Brice Clotaire-Oligui Nguema avec 90,35% des voix. Très très loin devant l'ex-premier ministre Alain-Claude Béli-Binzé qui arrive second avec quelques 3%. Il dénonce quant à lui des fraudes dignes de l'ancien régime. Mais je vous le disais, il ne perdra pas son temps à déposer un recours pour contester, c'est ce qu'il affirmait hier. Alain-Claude Béli-Binzé reconnaît ainsi sa défaite. Je vous propose d'écouter sa réaction.
Faut-il féliciter une victoire arrachée dans des conditions aussi opaques et contestables? Certes, je n'ai pas gagné cette élection, mais le vainqueur désigné l'a-t-il vraiment emporté à la régulière? Et le score qui m'est attribué est-il sincère? Jamais, depuis mon entrée en politique, je n'ai été témoin d'un tel détournement de tous les moyens de l'État. Les mécanismes du mensonge ont fonctionné comme une machine bien huilée. Bourrage d'urnes, suppression des suffrages des concurrents, privation des marges de manœuvre pour mes équipes, omniprésence d'un candidat soutenu par l'État, jusqu'à l'épuisement de la parole démocratique même.
Voilà les mots d'Alain-Claude Béli-Binzé. Autre son de cloche évidemment du côté des partisans de Brice Clotaire-Oligui Nguema. Le rassemblement des bâtisseurs, plateforme lancée pour soutenir sa candidature, va d'ailleurs évoluer après cette élection. Elle se transformera prochainement officiellement en formation politique pour offrir une majorité au président élu à l'occasion des législatives à venir. Une assemblée générale est convoquée pour cela dès samedi. C'est Ange-Kevin Nzigou, le coordonnateur du rassemblement des bâtisseurs, qui l'annonçait, tout en rejetant les accusations de fraude et de vieilles pratiques.
Les vieilles habitudes, c'est lui qui les connaît. Moi, je connais des habitudes que j'ai réprouvées. Je ne les ai pas retrouvées dans cette élection. Les Gabonais ont pu voir, pour une fois, une élection où il y a eu le moins possible, les moyens de l'État mis à disposition des candidats. Tout ce qui a été regretté dans le passé a été rectifié dans le cadre de cette campagne. Et les Gabonais ont eu l'occasion de le constater. Et c'est peut-être ce qui a justifié l'adhésion massive qu'il y a eu lors du vote. Donc, je comprends et je peux entendre que M. Béli-Binzé est nostalgique de ses pratiques, mais je puis aussi noter qu'il a souhaité bonne chance à notre candidat, ce qu'il a reconnu pleinement sa défaite.
Voilà, Ange-Kevin Nzigou, coordonnateur du rassemblement des bâtisseurs. Et puis avant de quitter le Gabon, notons également le bilan des observateurs internationaux qui saluent globalement le déroulement de l'élection de samedi. Au cours d'une conférence de presse commune, les missions de l'Union africaine, de la Communauté des États d'Afrique centrale, de la Francophonie et du Commonwealth ont félicité les Gabonais pour leur maturité. Le Commonwealth qui a toutefois souligné l'inégal accès à l'espace médiatique pour les candidats. RFI mobilisé en ce mardi 15 avril 2025. Vous avez peut-être entendu notre édition spéciale tout à l'heure, sinon vous la retrouverez en ligne. Alors que le Soudan entre aujourd'hui dans sa 3e année de guerre civile, une guerre meurtrière qui a fait des milliers de morts déjà et qui a provoqué le déplacement de près de 13 millions de personnes, dont 4 millions hors des frontières du Soudan. Des exilés qui se réfugient notamment au Tchad, ils passent par le poste frontière d'Adré, là où notre envoyée spéciale Nadia Ben Mafoud a pu constater le calvaire que vivent ces gens et recueillir surtout leur témoignage.
Assise par terre, prostrée, regardant le vide, Zinab vient tout juste d'arriver.
Je suis fatiguée, j'ai des douleurs partout sur le corps, mais j'ai surtout mal aux yeux à cause de la poussière et du vent sur la route.
Zinab a 34 ans, elle est mère de 4 enfants et pour ce premier voyage au Tchad, elle a dû faire la traversée seule.
J'ai laissé deux de mes enfants là-bas, à Zalingué. Si j'arrive à rassembler l'argent, je pourrai les faire venir.
Narmat et ses enfants viennent de fouler le sol tchadien, ils attendent d'être enregistrés. Pour son long périple depuis Niala, dans le sud du Darfour, elle a dû travailler de longs mois avant de rassembler la somme nécessaire.
J'ai travaillé, j'ai été casseuse de pierre, j'ai vendu des oignons, j'ai travaillé dans les champs aussi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour récolter l'argent. On a pu acheter quelques petites choses à manger, payer le chauffeur et monter dans la voiture. Ça a coûté 75 000 rials par personne. Le total aurait pu nous faire vivre pendant 2 mois.
La jeune femme a encore du mal à raconter ce qu'elle a vu sur la route.
On arrête les hommes, on leur enlève leur argent, mais ils laissent passer les femmes et les enfants. Les hommes sont traités très durement. Certains sont mis en prison, d'autres voient leur argent et leur nourriture confisquées. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent.
Les organismes chargés d'accueillir les réfugiés notent une baisse des arrivées ces derniers mois, mais avec le durcissement des combats à El Fasher, ils craignent une recrudescence prochainement. Nadia Ben Mahfoud, Adré et RFI.
Des exilés soudanais au Tchad qui viennent donc essentiellement du Darfour où les combats se poursuivent à l'heure actuelle. Ce week-end, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont affirmé avoir pris le contrôle de l'énorme camp de déplacés de Zamzam, provoquant la fuite d'au moins 400 000 personnes. Dans la région du Darfour occidental, 400 personnes ont été tuées encore la semaine passée par les FSR, selon l'ONU. Une situation qui déteint ainsi jusqu'au Tchad, on l'a vu. Dans les relations entre voisins également, le gouvernement soudanais et le général Al-Burhan accusent N'Djamena de soutenir les FSR, et situation qui déteint jusqu'au cœur de l'appareil d'État tchadien manifestement. En effet, ce week-end, l'un des plus hauts gradés de l'armée tchadienne, Abdelrahim Bahar Mahamat Itno, proche parent du président, s'est vu dégradé au bas de l'échelon militaire et même radié de l'armée pour faute grave, sans plus de détails. Mais un message vocal du général diffusé dans un groupe WhatsApp a finalement fuité. On entendait l'officier qualifier le pouvoir tchadien de corrompu. Esdras Dikoumana, il appelait les membres de sa famille à le renverser.
Le sociologue Gondé Ladibar rappelle que c'est le troisième ou quatrième général appartenant au noyau central des Itno à subir les foudres de Mahamat Idriss Déby Itno après l'avoir défié publiquement. Mais au-delà, la dégradation de son cousin Bahar Itno du plus haut grade de l'armée, général 5 étoiles au plus bas soldat de deuxième classe avant sa radiation, est une preuve supplémentaire de la crise qui couvre au sein du clan qui dirigeait le pays du temps de Déby Itno père, Gondé Ladibar.
Ils sont écartés, ils n'ont plus d'influence qu'ils avaient. Il y a certains secteurs économiques, là, notamment le transport, tout ce qui est orpaillage. Il y a eu une redistribution des cartes. Du coup, leur pouvoir économique aussi a baissé. Tout ça, ça crée des mécontentements.
Et pour le chercheur Laurent Marchal, c'est également un message de fermeté envoyé aux membres des forces de défense et de sécurité qui seraient tentés, comme un petit nombre l'a déjà fait, de rallier le camp du général soudanais Burhan sur un réflexe communautaire. Déjà il y a quelques jours, il a sorti un décret qui prévoit la radiation et la perte de nationalité dans un tel cas, selon le chercheur.
Je pense que le président Mahamat Kaka a affirmé sa volonté de maintenir un contrôle de plus en plus marqué de son armée, et notamment d'éviter le transfert de certaines de ses troupes du Tchad au Darfour. Donc on voit que cette politique-là est mise en œuvre, y compris, et je crois que c'est à dessein, vis-à-vis d'officiers qui sont dans la famille Itno, pour montrer qu'ils ne plaisantent pas.
La tension au sein de l'armée tchadienne va être de plus en plus forte avec le durcissement de la guerre au Darfour, prévient Laurent Marchal.
Une crise au Darfour et plus largement au Soudan, qui seront par ailleurs au cœur d'une conférence internationale aujourd'hui à Londres, co-organisée par la Grande-Bretagne aux côtés de la France, l'Allemagne, l'Union européenne, avec la participation des États-Unis et plusieurs voisins du Soudan, ainsi que l'Union africaine ou bien encore la Ligue arabe. Autant de participants pour tenter de répondre à ce qui est donc aujourd'hui l'une des plus grandes crises humanitaires sur notre planète.
RFI à Bukavu, 98 FM.
L'Est de la RDC à présent, où la guerre continue également et la tension est d'ailleurs à nouveau montée d'un cran ces derniers jours. Situation qui contraint la MONUSCO à réagir, la mission de l'ONU, tout comme les forces de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. Elle dément être responsable des récentes attaques qui ont frappé Goma et l'aéroport de Kavumu, près de Bukavu. Attaques qui ont visé également des localités, d'autres localités dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. L'ONU dément donc. En revanche, elle confirme avoir recueilli des soldats congolais et certains encore aujourd'hui dans ces bases, Patient Ligaudy. Ces militaires ont tous été désarmés avant d'être intégrés dans la base de la mission onusienne. Nombre d'entre eux sont arrivés sans pièce d'identité, ce qui complique leur identification selon plusieurs sources. Le processus repose souvent sur leur parole et sur des vérifications auprès des FRDC. Les homonymies et l'usage de surnoms rendent cette identification encore plus complexe. Sur le plan logistique, la MONUSCO leur assure quotidiennement la nourriture et le couvert, mais l'absence des données de base complique le suivi. D'après nos informations, ces militaires étaient environ 3000 sous la protection de la MONUSCO, cependant, il en resterait désormais environ 1200. Mais où sont passés les autres? Du côté des FARDC, on rejette les accusations selon lesquelles ces militaires rejoindraient les Ouazalendo, mais les FCM-23 persistent à dire qu'ils ont été libérés pour se joindre à eux. Le terme « libéré » est contesté par les sources onusiennes qui précisent que ces militaires n'étaient pas en détention. Ils sont partis, disent ces sources, de leur propre gré après avoir signé un document expliquant leur départ. Selon les sources onusiennes, ces militaires ne sont pas armés lors de leur sortie. Cependant, ce que l'on sait, c'est qu'aucun suivi n'est effectué une fois qu'il quitte la base de l'ONU.
Passion Ligaudi, une première mondiale en Afrique du Sud. Un ancien policier qui sera bientôt jugé pour crime d'apartheid. Accusé d'avoir assassiné 3 jeunes combattants pour la liberté en 1982, un juge a donné son feu vert hier, Claire Bargelès.
Selon les défenseurs des droits humains, il s'agit d'une décision historique. Aucun accusé n'avait jusqu'à présent été poursuivi pour le crime international d'apartheid, reconnu par les Nations Unies et le statut de Rome. Il aura fallu l'implication des familles des victimes et de la société civile, ainsi que la volonté du procureur rattaché à ce dossier pour que, plus de 40 ans après les faits, un tel précédent ait lieu. Ce procès prend donc une autre dimension, puisque ces anciens collaborateurs du régime ségrégationniste doivent désormais répondre non seulement de leurs actions individuelles, mais aussi de leur participation au sein d'un système d'oppression plus global. Près de 30 ans après la commission Vérité et Réconciliation, plusieurs autres procès et enquêtes sont en cours pour enfin finir de faire la lumière sur cette période de l'histoire sud-africaine, avec notamment la réouverture du dossier autour de la mort jugée accidentelle d'Albert Luthuli, ancien président de l'ANC et prix Nobel de la paix, percuté par un train en 1967. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et notre matinale continue bien sûr sur RFI. Vous retrouvez tout de suite Andréane Mélard.